France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, ce matin encore, Fabrication Maison vous entraîne, chers auditeurs matinaux, à la découverte des coulisses de la musique à Radio France. Dans le portrait, rencontre avec Laurence Monterol, artiste lyrique au cœur de Radio France. Avec le reportage de Vinciane Lemonnier, nous évoquerons le projet Viva l'Orchestra, l'orchestre des amateurs, initié par l'Orchestre National de France. Puis à 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché. À 8h30, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Pat. À 8h45, votre souvenir musical dans Parlez-moi de musique. Et enfin, à 8h50, notre feuilleton Question de cœur avec Sophie Janin. Ça vous va? Alors on y va.
France Musique.
Bonjour Laurence Monterol.
Bonjour Dominique.
Alors Laurence Monterol, je le disais, vous faites partie des artistes lyriques du cœur de Radio France depuis un petit moment déjà.
Ça va faire 24 ans, oui.
C'est bien, non?
C'est super, c'est formidable.
Mais le cœur n'est pas votre première entrée, Laurence, à la maison de la radio, je crois.
Ben, on peut dire que je suis un petit peu un produit maison. Vraiment.
Produit maison, fabrication maison, vous
fabrication
aussi.
Fabrication maison, c'est un peu moi, puisque j'ai fait partie de la maîtrise avant de faire partie du cœur.
Alors, c'était une maîtrise qui était dirigée par qui à l'époque?
Alors, à l'époque...
Non, mais à l'époque, oui, non. Enfin, voilà, on a tous une époque.
Voilà, on a tous une époque. Moi, c'était l'époque de Jacques Jouineau. Très belle époque. Il m'a vraiment formée à ce métier. Je crois que ma vocation est venue de là. Mon envie viscérale de faire partie du cœur de Radio France, elle est venue de là.
Et puis aussi parce que grâce au cœur de Radio France et à la maîtrise, on assiste ou on participe à des projets extraordinaires. Et il y en a un qui vous a marqué. C'est beaucoup d'émotion, Laurence Monterol, que cette ouverture du Méphistophélé d'Arrigo Boito.
C'est énorme parce que je ne l'ai pas réécouté depuis, en fait, et j'étais petite fille dans le chœur. Devant ce chœur, dirigé par Nello Santi, qui était un magicien formidable devant l'orchestre, et réécouter ça, c'est je ressens encore l'émotion que ça a été pour moi d'entendre pour une des premières fois de ma vie ce chœur qui me soufflait comme ça toute la musicalité qu'il avait. Et je dois, à l'écoute, là aujourd'hui, je reconnais que d'année en année, de génération en génération, la qualité de ce chœur est toujours la même, est toujours intacte et c'est très très fort. Enfin, je suis bouleversée, oui.
Oui, je le vois. Ouais. Vous parliez même, Laurence, d'un patrimoine sonore.
Absolument, c'est un réel patrimoine ce chœur. Il existe depuis plus de 60 ans et de génération en génération, la qualité, la couleur, les timbres sont toujours présents. Le concours pour entrer à l'intérieur de ce chœur est extrêmement difficile, aussi difficile que celui du recrutement des musiciens, des orchestres. Et on recrute les meilleurs avec l'ouverture, la mondialisation. À l'heure actuelle, notre chœur est international. On a 11 nationalités. Le dernier entré est un Québécois, un Roumain, il y a des Japonais, des Chinois.
11 nationalités, vous m'avez dit.
Oui, 11 nationalités, italien, bulgare, polonais, russe, enfin j'en oublie certainement, mais c'est extraordinaire.
Alors donc là, nous écoutions l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les chœurs et la maîtrise de Radio France dirigée par Nello Santi. C'était au Théâtre des Champs-Élysées en janvier 1975, entre le moment où la petite Laurence Monterol est dans la maîtrise et votre arrivée au chœur, il s'est passé des choses. Thank you. Laurence Munterholz, c'est votre voix qu'on entendait chanter ce Vegan Lied de Richard Strauss, opus 41, numéro 1. Et c'était donc finalement la bande sonore du film de Claude Miller, l'accompagnatrice.
Oui, très très beau souvenir avec lui. C'est Claude Miller, quand il écrivait ses scénarios, écoutait beaucoup de musique.
Ah oui.
Ouais.
Et donc en fait, il avait une idée très précise.
Il avait une idée très très précise de ce qu'il voulait dans son film. Donc il a donné sa liste de course, et puis on a travaillé les morceaux avec Angéline Pompère, et puis on lui a présenté, et là il a dit oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Et je lui ai dit, mais faites-nous faire le travail que vous faites avec vos acteurs, dites-nous dans quelles circonstances on doit les chanter, comment, dans quel
contexte,
état d'esprit on doit les faire, et on fera l'interprétation que vous désirez. Et ça a été extraordinaire comme travail, vraiment. C'est un très très beau souvenir pour moi.
Un travail un peu différent de celui qu'on peut faire quand on est...
C'était pratiquement un travail d'acteur, en fait.
Un travail d'acteur,
oui.
qui a une incidence sur l'interprétation, la voix...
Absolument, oui. Absolument.
Alors là, vous étiez avec l'Orchestre Symphonique de Budapest, qui était dirigé par Andras Dery.
Voilà, tout à fait.
Laurence Munterholz, vous avez tout de suite décidé de continuer, finalement, de sortir de la maîtrise, de faire des études de chant, et puis de revenir au chœur.
Bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir évoluer physiquement et musicalement en dehors d'un groupe et travailler son instrument de façon beaucoup plus holistique, parce qu'on a un corps et qu'il faut le faire évoluer. Et dans un groupe, c'est pas forcément évident. Et chanter en voix d'enfant et pour après devenir une chanteuse adulte, il faut un certain temps. Moi, ça a mis 5 ou 6 ans. Je suis passée par le Conservatoire de Paris pour faire de ma voix une voix d'adulte, la travailler vraiment, savoir exactement comment on fait un son et devenir une vraie musicienne.
Mmh. Un chœur, c'est finalement une addition d'individualité.
Totalement.
Voilà, tout dans l'excellence.
Totalement.
C'est que cette excellence, on l'entend dans un répertoire qui est assez caractéristique de celui du chœur de Radio France. Mmh. C'est évidemment Francis Poulenc.
Thank you.
Le magnifique Gloria in Excelsis Deo du Gloria de Francis Poulenc par l'Orchestre National de France, le chœur de Radio France, dirigé par un grand chef d'orchestre, Laurence Monterolle, Georges Prêtre.
Je ne faisais pas partie du chœur à cette époque-là, mais j'ai choisi cet extrait-là pour votre émission, parce que, justement pour montrer la pérennité de ce chœur dans le temps. Je pense que c'est un enregistrement des années 85, 88, quelque chose comme ça.
Et un son que vous reconnaissez tout de
Absolument.
Suite. Vous pensez que finalement chaque chœur professionnel, on va dire, a vraiment une couleur sonore qui
Absolument.
Lui appartient.
Absolument.
Et qui naît de quoi alors cette couleur sonore?
Pour moi, c'est la tradition des gens qui rentrent dans ce chœur, qui se fondent dans le chœur existant et qui amènent du nouveau, certes, mais qui sont néanmoins dans la continuité du chœur qui existe déjà. C'est comme à l'Opéra de Paris, le corps de ballet est une tradition de génération en génération. Le cœur de Radio France est vraiment tel.
Mmh. Vous avez, Laurence Monterolle, de très grands souvenirs de chef.
Y en a deux qui me reviennent à la mémoire tout de suite, là, comme ça. C'est la troisième symphonie de Mahler au théâtre à Saint-Denis, au festival de Saint-Denis avec Seiji Ozawa. Ça devait être dans les années 95, 98, quelque chose comme ça, avec ce chef qui est monté sur ressort avec ses chaussures de sport et qui est d'une telle générosité et d'une telle envie de faire de la musique avec les autres qu'elle se transmet automatiquement et immédiatement.
Comme un branchement électrique.
Exactement, et qu'on a envie de lui donner le meilleur. Et de la même façon, un autre chef est... toujours avec Mahler, la deuxième symphonie de Mahler et Marès Janssen. Et le chœur avait été invité à participer à un concert du Concert Robot d'Amsterdam à la salle Pleyel. Et ça, c'est un immense souvenir aussi. Parce que de la même manière, ce chef sourit à ses musiciens, va les chercher et on lui donne le meilleur.
Tout à coup, il y a une espèce de circulation d'amour, presque.
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Kurt Masur, il est comme ça aussi. Il donne de l'amour et on est obligé de lui donner. Et la musique n'est que ça, en fait.
C'est très important, donc.
C'est très important.
Le travail qu'on fait avec un chef d'orchestre, avec un directeur musical.
Avec un chef de chœur, pareil. Mm-hmm. On a envie de donner le meilleur si en face de nous, on a quelqu'un qui nous comprend, qui nous aime et qui a envie d'obtenir de nous le meilleur, pas sous la contrainte, sous la joie, sous le bonheur et sous l'exigence de la qualité.
Dans ce Gloria de Poulenc, qu'on entendait bien ses voix masculines, vous le disiez, oui. Laurence Monterolle, il y a quelque chose à Radio France, ce sont ses voix d'hommes.
Ah ben, bien sûr, les voix de femmes aussi, on ne va pas les laisser de côté, mais c'est vrai que ce chœur d'hommes, ces basses sont incroyables, les ténors sont fabuleux, mais aujourd'hui, l'ensemble du chœur est beau, il y a vraiment une qualité qui est remarquable et Sophie Janin fait un très bon travail avec nous aussi.
On va en reparler tout à l'heure, mais par contre j'aimerais bien que les auditeurs découvrent votre choix suivant, qui est un petit peu surprenant. Don't mean a thing, don't mean a thing.
thing, don't mean a thing, don't mean a thing.
You've got to sing all you've got to do to make it. You've got to sing all you've got to do to make it. You've got to sing all you've got to do to make it. You've got to sing all you've got to do to make it. You've got to sing all you've got to do.
Don't mean a thing.
You've got to sing all you've got to do.
It ain't got to swing. Doesn't matter if it's sweet or if it's hard.
That rhythm,
everything. Just give it everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do a 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 do a. Wah 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 wah. Do a 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 do a. We don't mean a thing if it ain't got that swing.
Alors, c'est absolument génial. C'est The Real Group. C'est un groupe suédois qu'on ne connaît finalement pas en France. On
pas
connaît
du
mieux
tout.
Les King Singers, dont I Don't Mean a Thing, tout ça a cappella. Oui. Ça vous fascine, Laurence Panterol?
C'était un petit peu ma récré quand je rentre de toutes
après
ces belles œuvres.
Après quelques Verdi et,
voilà,
et Requiem.
Quand je rentre à la maison, j'aime bien écouter ce groupe, notamment, parce que d'abord, ce sont des grands professionnels de la voix. Ils sont connus, ils font des tournées incroyables
dans
le monde entier. En France, on ne les connaît pas du tout. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à Sophie Janin parce qu'ils sont suédois.
Alors Janin qui est donc devenue directrice musicale, enfin chef du chœur de Radio
Bien
France
sûr.
Cet été.
Oui, oui, oui.
Vous faites autre chose que le chœur, vous faites un petit peu du quatuor vocal comme ça, pourquoi vous ne vous lancez pas pour faire un petit groupe à la française?
Oui, je le fais gentiment avec des camarades, je le fais pour m'amuser, oui.
Vous parliez d'un quatuor vocal.
D'un quintet. Oui, on fait quelques musiques de films, mais oui, oui.
Et donc, c'est quelque chose qui est important que d'avoir une activité qui est un petit peu autre que celle du grand chœur. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité qu'il y avait en tant que chanteur de se former individuellement. Parce qu'on vient
c'est une nécessité de se former individuellement. C'est une nécessité aussi de se remettre en question de façon très régulière. On est un musicien, il faut que l'instrument fonctionne dans sa qualité optimale tous les jours au pupitre parce qu'on n'a pas le droit de compter sur les autres non plus.
Bien sûr.
Je dis souvent que le chant, c'est un réel sport. Il faut.
Et alors, Laurence Panterol, ce qui remet aussi un petit peu en question, c'est, et vous le disiez, vous me l'avez dit, c'est le choix des répertoires que vous propose Sophie Janin, justement, qui, justement, vous entraîne sur des terrains, peut-être, que vous ne connaissiez pas dans le chœur encore.
Elle est assez formidable parce qu'elle bouscule un peu les choses établies depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire des concerts un petit peu que je qualifie de monolithiques, avec une certaine...
Monothématique, on va dire.
Monothématique, si vous voulez, monothématique, avec une certaines lignes de conduite, musique romantique allemande ou musique française. Et là, elle arrive, elle décide de changer les formats des concerts, ce que je trouve très porteur pour tout public. On va du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine dans un même concert. On chante en tchèque, on chante en lituanien, on chante en anglais, on chante en allemand, on chante en français. Ça part dans tous les sens, mais avec toujours une ligne conductrice, un thème.
Et une exigence.
Et une exigence, bien sûr.
Pour on va l'entendre tout de suite, cette exigence. Dans un des concerts que vous donniez, c'était le 20 septembre dernier. Vous étiez à la Maison de la Radio, à l'Auditorium, et c'est une pièce d'Anders Hilberg. À nouveau le très beau son du chœur de Radio France dans cette pièce de Anders Hillborg, En Midsommar Nachtsdröm, qui fait penser un peu au Midsommar Night's Dream de Shakespeare. Laurence Monterol, donc évidemment tout le monde a entendu parler du concert des Carmina Burana, demain,
oui,
mardi,
qui est complet,
plus que complet. Oui. Mais il y a un autre concert qui vous tient à cœur, parce que justement il est assez emblématique de peut-être ce nouveau chœur de Radio France qui est en train d'émerger.
Oui. C'est dans le cadre de projets pédagogiques faits en collaboration avec le Louvre, c'est le 21 novembre, le premier. Il y a trois concerts, mais le premier est le 21 novembre, ici à la Maison de la Radio. Et c'est Mythe fondateur d'Hercule à Dark Vador.
Oula, ça parle à tout le monde, ça.
Ben voilà, ça parle à tout le monde, c'est formidable.
On viendra vous écouter et puis on en reparlera certainement dans Fabrication Maison. Merci beaucoup, Laurence
Monterol. Merci beaucoup à vous.
Yeah.
Enregistré en 2008 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et la Maîtrise de Radio France, nous écoutions l'une des trois petites liturgies d'Olivier Messiaen, dirigée par Myung-Hoon Chung. Et voici venu le moment de la séquence reportage, un reportage sur le projet Viva l'Orchestra. Bonjour Vinciane Lemonnier.
Bonjour Dominique.
Après une première édition enthousiasmante la saison dernière, l'Orchestre National de France réitère l'aventure du Grand Orchestre des Amateurs de Radio France. Et les inscriptions sont maintenant closes, Vinciane.
En effet, il est l'heure à Radio France d'éplucher les lettres de motivation et les candidatures des musiciens amateurs qui ont postulé des quatre coins de la France pour pouvoir jouer avec les musiciens de l'Orchestre National de France au printemps prochain. Alors au final, ils seront 120 à être sélectionnés et pour les heureux élus, le programme à venir, ce sont 12 répétitions à la Maison de la Radio, encadrées par les musiciens de l'Orchestre National de France et un grand concert le 29 mai avec eux sur la scène de l'Auditorium de Radio France et sous la baguette de Christophe Mangou. Enfants, étudiants, familles, boulangers, cadres, médecins et retraités, les profils sont, vous voyez, très variés.
Oui.
Et dans son bureau, au 10e étage de Radio France, Marie Fauché, la responsable du programme pédagogique et culturel de l'Orchestre National de France, commence le minutieux travail de lecture des candidatures, accompagnée de Marc-Olivier Denat, violoniste de l'orchestre.
Quand j'étais au conservatoire, c'est
l'idée d'avoir des personnalités de tous les horizons me plaît énormément. Prenez-moi.
J'ai toujours voulu en refaire, mais l'instabilité de mes horaires ne me permettait.
Je suis extrêmement en lettres capitales, motivée pour intégrer.
C'est désormais possible.
Et pour beaucoup de
mon rêve depuis toujours d'être un jour dans un aussi bel orchestre, plus jeune.
Jouer à nouveau dans un orchestre est un rêve pour moi.
Je suis de nature très sérieuse, assidue et patiente.
C'est l'entretien d'embauche.
Vous voyez,
alors... Il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup de gens qui ont envoyé leur candidature.
J'ai pas encore les chiffres précis, mais on doit être autour de 500, je pense. Il y a des gens de l'année dernière qui se représentent. Il y a beaucoup de gens aussi, là, je constate en lisant les motivations des gens qui étaient présents au concert, qui ont découvert le projet comme ça.
Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous classez, là, il y a différents classeurs avec les pupitres, violoncelle, violon, flûte.
Bon, là, ils ne sont pas tous réunis, mais le pupitre de violon, il y a énormément de demandes. Ouais. Je crois que le plus fou dans la proportion entre le nombre de candidatures et la taille du pupitre à la fin, ouais, c'est la flûte. Je ne sais pas, on doit avoir 70 candidatures pour 4 postes, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de violonistes aussi, et il y a aussi quand même pas mal de violoncellistes, on peut le constater.
Comment est-ce que vous sélectionnez, en fait? Quels sont les critères?
Le souci numéro un, c'est la qualité. Le souci numéro deux, c'est l'éclectisme. Ça signifie donc qu'on prend à la fois des gens de très bon niveau pour certains pupitres, en particulier dès qu'il y a des solos, alors flûte solo, clarinette solo, pupitre de premier violon en général. On essaye dans chaque pupitre d'équilibrer, il faut une base de très bon niveau. Et puis, avec cette base-là, on ajoute des niveaux plus varié. La personne qui a un an de pratique jusqu'au pré-professionnel, on a quelques candidatures, là j'ai vu, de gens qui veulent être professionnels.
Il y a combien de places en tout?
Il y a 110 places, plus ou moins 120. En fait, l'auditorium, il y a une jauge de sécurité à laquelle il faut qu'on fasse attention, comme les musiciens amateurs vont être rejoints par les musiciens de l'Orchestre National. Il va falloir qu'on équilibre entre les deux pour ne pas dépasser 130, je crois que c'est 138 musiciens en tout sur scène.
Qu'est-ce que vous allez jouer?
Alors cette année, on a choisi un programme de musique américaine, en tous les cas de compositeurs américains ou de compositeurs non américains, mais tournés vers les États-Unis. Donc on aura du Dvorak, évidemment Gershwin, Stravinsky, Copland, quelques musiques de films de John Williams ou Bernard Herrmann. Les œuvres qui seront préparées pour le concert ont des parties adaptées à des niveaux relativement débutants. Mais aussi, on n'a pas touché aux parties principales, donc là, il faut quand même des gens d'un niveau supérieur, d'un niveau confirmé.
Et alors, quel est le but au fond de ce projet-là? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi vous, il vous tient à cœur?
Ça fait vraiment très longtemps qu'on travaille en direction du public des amateurs, des grands amateurs, parce qu'on sent qu'il y a une demande du public pour travailler de manière très approfondie avec les musiciens de l'Orchestre National, quasiment dans des conditions professionnelles.
Thank you.
Direction le bureau de Claire Lagarde, réalisatrice à France Musique. Claire a participé l'an dernier au projet Viva l'Orchestra. Violoncelliste, elle a retrouvé des sensations lointaines, elle qui avait envisagé un temps une carrière musicienne.
C'est une décision à prendre à un moment donné, de se dire, bon, on sait ce que c'est, il faut refaire de la corne au bout des doigts, ça peut prendre beaucoup de temps, et passer sur une frustration qui va être assez longue au départ, sachant que quand même j'avais pas mal joué quand j'étais plus jeune, c'est date d'il y a 25 ans, donc il faut vraiment s'y remettre.
Parce que vous avez fait une grande pause en fait.
Ah oui, une vraie pause. Donc c'est effectivement un peu fou de se dire, je m'y remets. Quand même j'ai joué, je m'y suis mise, je l'ai fait vraiment.
Comment ça s'est passé alors ces répétitions ?
Un petit peu l'angoisse, découvrir un pupitre. C'est une petite ville, c'est donc on a des voisins de pupitre, on a devant, derrière. On se connaît pas. On a reçu des partitions par la poste, très sérieusement. On les a mis sur un pupitre à la maison, on a travaillé. Et puis là, bah, le résultat, effectivement, tout un pupitre, c'est incroyablement réjouissant. Quand on l'a fait, on est tellement content de l'avoir fait qu'on a envie que tout le monde puisse le faire, quand même.
C'est un projet, en fait, qui a couru tout au long de l'année, parce qu'au début, on reçoit les partitions, chez soi, on les travaille, après, il y a la répétition, il y a le concert, qui est l'événement final. Quelle a été la période qui vous a le plus plu ?
La première répétition où la matière prend, parce qu'on revenait de loin. Je crois qu'on peut dire que le parcours a été incroyable parce que les premières répétitions, c'était assez cata.
Ah oui.
On va dire, oui, on peut le dire comme ça. Mais ce qui était touchant et même émouvant, c'est le parcours qu'il y a eu. Évidemment, le moment du concert qui est inoubliable, avec une émotion, c'était inespéré.
Alors vous, en tant que réalisatrice, vous côtoyez quand même les musiciens de l'Orchestre National de France, de temps en temps, vous les connaissez. Là, le fait de jouer parmi eux, c'est quelque chose de singulier, de différent.
Ah bah bien sûr, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille avec des musiciens. Alors, il y a tout d'un coup se retrouver dans la position de faire et non pas être autour de celui qui fait. Bon, ça c'est intimidant parce que ça oblige un autre regard qui est très, très sain d'ailleurs. Ça remet beaucoup de choses en place. Et évidemment, de l'émotion d'être avec, mais d'être avec en train de le faire aussi, c'est très particulier. Il y a une sorte de concentration et de connivence. Dire. Ils sont très très chouettes, ils ont été formidables. Je pense j'ai senti qu'ils étaient contents eux aussi d'être là.
Quel est l'intérêt pour vous au fond de ce genre de projet d'ouverture ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Ça nourrit. C'est aussi les familles de ces musiciens, des gens qui ont été là, qui ont peut-être écouté autrement parce que c'est son père, son cousin, sa sœur dans l'orchestre. C'est une façon de remettre soi-même le pied dans un artisanat, de toucher du doigt ce plaisir que cette musique permet avec cette épaisseur, avec cette possibilité de chemin en tout cas. Je pense que chaque personne qui a participé a eu quelque chose de personnel dans cette affaire. C'est pas un coup, c'est pas un chiffre, c'est vraiment un truc épais. C'est chouette quoi, ça a de la gueule. Voilà.
Dans l'auditorium de la Maison Ronde, les musiciens de l'Orchestre National de France sont en répétition. Lieu et ambiance idéale pour rencontrer Sophie Delpont, journaliste à Radio France qui a candidaté cette année à Viva l'Orchestra.
Alors là, Sophie, on est dans l'auditorium de Radio France. Peut-être c'est là que vous allez être à la fin de l'année, on ne sait pas. Vous n'êtes jamais venue ici, alors que vous travaillez à Radio France.
Non, je ne suis jamais venue ici et je suis très impressionnée par le lieu. Je ne pensais pas qu'on avait dans notre grande maison ronde un endroit aussi incroyable. C'est très impressionnant.
Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce projet Viva l'Orchestra ?
J'ai repris le violon très sérieusement en août dernier. Mon violon, je l'avais laissé dans sa boîte pendant 10 ans. Ce violon, c'était le violon de mon grand-père, qui était violoniste à l'orchestre, à Lille, et puis ensuite à Marseille. Et donc ce violon, il a vibré sur scène. Comment dire ? J'étais pas très fière de moi de ne plus le faire vibrer. parce que c'est un violon qui est très ancien, c'est un violon qui date de 1783, donc qui était là avant moi, qui sera là bien après moi, j'espère. Et donc, dans sa vie de violon, bah, moi, je l'avais laissé tomber, et c'était pas bien.
Et vous aviez déjà entendu votre grand-père jouer sur ce violon ?
Non, parce que quand il est mort, j'avais 9 ans, et il était complètement sourd. Donc, il ne jouait plus. Et moi, la dernière image que je garde de lui avec ce violon, c'est quand il lui a dit au revoir, c'est-à-dire qu'il l'a embrassé, et il l'a remis dans sa boîte.
Alors, voilà le violon.
Alors, voilà mon violon. Le violon qui est donc ce vieux papy dont je vous parlais. C'est un violon qui a un très joli dos, qui a un dos un peu avec des sortes de rayures du bois. C'est un violon qui est assez clair, qui est crème, qui est un petit peu, je dirais, miel, couleur miel, voilà. Il est assez plat, la table est assez plate. Vous savez que les violons, c'est un peu comme les gens. C'est-à-dire quand on s'occupe pas d'un violon, et ben, il vibre plus pareil. Donc ça a été un peu compliqué. Alors je l'ai amadoué doucement, j'ai repris mes méthodes, mon sepsic, mes gammes. Puis finalement, le son est revenu.
Et alors là, vous avez mis des photos de famille ?
Oui, voilà, parce que mon violon, c'est donc tout ce qui me reste de gens que j'ai beaucoup aimés. Pour ça aussi que c'est important pour moi de jouer, c'est-à-dire que c'est devenu, on va dire, ma manière à moi de garder mon lien avec ces personnes que j'ai aimées et qui sont plus là aujourd'hui. Donc on voit là qu'il y a mon grand-père et ma grand-mère. Son père, lui, donc était aussi à l'orchestre, donc c'est une lignée de musiciens qui commençait à s'éteindre. Et donc il y a aussi l'idée que ma passion, c'est la radio, c'est aussi la musique. En fait, ces deux passions-là, si j'arrive à les combiner et à faire de la musique dans ma radio, je suis la plus heureuse du monde.
Retour dans le bureau de Marie Fauché, responsable pédagogique de l'Orchestre National de France, avec Marc-Olivier Donat, violoniste de l'orchestre.
Alors là, dans votre bureau, il y a plein de portraits, des photos grand format de musiciens amateurs qui ont participé l'an dernier au même projet.
Ouais. Ce monsieur, il travaille au Journal officiel. Cette dame, elle est psychologue et enseignante.
Donc violoncelliste.
Oui. Et puis alors sur les photos, chacun a un objet qui est censé représenter leur fonction dans la vie civile. Estelle Touzet, nommée chef sommelière au Ritz.
Violoniste.
Elle est violoniste. La famille Cornudem, donc les parents et les deux enfants.
Enseignante, géologue.
Le plus âgé et la plus jeune. Donc ce monsieur a 83 ans, je crois.
Il était chercheur.
Chercheur, émérite CNRS. Et elle est donc écolière, Jeanne, qui a 7 ans. Et puis Pierre, il est navigateur pilote à la Marine nationale, il travaille à Cherbourg. Il y a des gens qui viennent aussi de... Enfin, c'est absolument pas fermé aux gens qui viennent de province, simplement il faut s'organiser.
Donc on voit en fait que c'est des profils très variés en fait, au niveau âge, au niveau milieu social, profession.
C'est vrai que c'est vraiment l'idée du projet, c'est que ce soit extrêmement varié dans tous les domaines que vous venez de citer. Quand on entend le concert de l'année dernière... n'avons rien à envier à certains orchestres pré-professionnels. Il y a une telle concentration, une telle énergie, les gens, les musiciens amateurs, quand ils sont sur scène, il y a une présence mais incroyable. Ils donnent à 200%. Tout le monde se dépasse.
Cette transmission à travers les générations, transmission entre les musiciens professionnels et les musiciens amateurs, et aussi la transmission entre les amateurs et les professionnels, parce que même nous, musiciens de l'Orchestre National, c'est important d'entendre, de sentir ce que cherche le public, ce que veut le public, et de créer cette relation. C'est pas une relation unilatérale, c'est vraiment dans les deux sens. En fait, quand on forme cet orchestre, de mélanger les musiciens amateurs et les musiciens professionnels, en fait, c'est juste ce partage de la musique qui est important pour nous. Et il n'y a plus ces barrières-là au moment du concert, et c'est ça qu'on recherche, en fait.
Les sélections pour l'Orchestre des grands amateurs de Radio France vont se terminer mi-décembre. Les participants recevront ensuite un dossier avec les partitions pour travailler chez eux. Les premières répétitions commenceront, elles, en mars prochain.
la chronique de la Maison Ronde. Une chronique avec vous, Marie Fauché, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors, nous le savons peut-être, le chœur de Radio France et les percussions de l'Orchestre National de France, sous la baguette de Sophie Janin, donneront ces fameuses Carmina Burana de Karl Orff, demain dimanche et mardi, ici à la Maison de la Radio. Je dis fameuse, mais finalement, est-ce qu'on connaît si bien ces Carmina Burana, Marie Fauché?
En fait, je crois, Dominique, qu'on sait beaucoup trop, et c'est bien souvent la seule chose que l'on retient d'ailleurs, que Carmina Burana a été une œuvre adorée par le Troisième Reich, par le régime nazi. C'est un fait aujourd'hui indissociable de cette œuvre. Et c'est assez redoutable pour l'oreille. Ça fait comme une grosse tache, ça vient mettre du sens là où il n'y en a pas. Car si on s'y penche, l'histoire est un peu plus compliquée que cela. D'abord, Karl Orff n'était pas politisé. C'est sans doute son plus grand tort, celui de ne pas avoir marqué sa désapprobation quant au régime. Ça n'est pas rien, mais ça n'est pas suffisant non plus. Ensuite, les nazis, avant d'approuver Carmina Burana, ils l'ont d'abord rejetée. Si on s'intéresse un peu au texte, on constate qu'ils sont bien loin de l'idée que l'on se fait de la rigidité totalitaire. Ce sont des poèmes du Moyen-Âge, en latin, en vieux français, en occitan, en allemand ancien, dans lesquels il est question de la nature éphémère de la vie, de la fragilité du pouvoir, mais aussi des plaisirs de l'alcool, de la chair et du jeu. Par exemple, le poème intitulé « Quand nous sommes dans la taverne ». La patronne boit, le patron boit, le soldat boit, le prêtre boit, celui-ci boit, celle-ci boit, l'esclave boit avec la servante, l'agile boit. Le paresseux bois.
L'exilé et l'étranger boivent, l'enfant boit, le vieux boit, l'évêque et le doyen boivent, la vieille boit, la mère boit, celui-ci boit, celui-là boit, 100 boivent, 1000 boivent.
Bon, si on n'a pas soif, ça ressemble un peu à un inventaire à la Prévert.
Ouais, autour d'un verre.
Jacques Prévert, voilà un avocat auquel on pouvait ne pas s'attendre. Prévert a découvert la cantate de Karl Orff grâce au peintre Lucas Zupin et il a aussitôt aimé cette œuvre. C'est vrai qu'en y pensant, il y a dans ces Carmina Burana une espèce de mélange de légèreté cocasse et de noirceur, un peu surréaliste. Comme dans cette scénette décrivant le cygne qui, du lac, se retrouve sur une broche, puis sur un plateau, observant la situation. Maintenant, je gis sur un plateau et je ne puis plus voler. Je vois d'impatientes dents.
Je t'ai fait voler.
Le ténor dans cet extrait du Carmina Burana, c'est Hans Werner Bunz. Le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise sont dirigés par Daniel Harding.
Prévert est devenu ami avec Karl Orff. Il existe d'ailleurs une petite correspondance et surtout un poème dont voici un extrait par Jacques Prévert.
Va Carmina Burana, la musique est enfermée dans une caisse. Il tape de toute leur force et sans cesse. Et elle sort libérée, presque tout à fait gaie. Dès maintenant, c'est encore autrefois ou ailleurs. C'est en même temps la musique d'aujourd'hui, de partout comme de par ici. Percussion, bifurcation, voix du cœur muée soudain en voix de tête sous la baguette de l'aiguilleur. Carmina Burana, fête. C'est l'abbaye Bénédicte Beren, ouvrant ses portes à la joie de Harlem. Carmina Burana, c'est du latin cockney de Whitechapel ou de Piccadilly, du javanais, de l'arlequin des Louchebem, de la chapelle dans le 18e à Paris. Sans dessus, sans dessous, gens de tout acabit, en latin turbulent, en allemand monastique, chantent la joie de boire la bière de Bavière et le vin de Bacchus dans les vignes du Seigneur.
Ce poème intitulé Carmina Burana est dédié à Karl Orff dans la voix de Jacques Prévert lui-même. Et c'était sur France Musique en 1974. Prévert avait cette liberté qui a sans doute permis à Karl Orff et sa cantate, Carmina Burana, de résonner et de rayonner différemment. Oh Barbara, quelle connerie la guerre!
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin. reste. Dont il ne reste rien.
Yves Montand, Barbara, poème de Jacques Prévert, musique de Joseph Cosma.
Quant au Carmina Burana, c'est demain dimanche et mardi, ici à la Maison de la Radio. Je sais que les concerts sont complets. On peut toujours essayer de se risquer. Mais ce sera bien sûr sur France Musique prochainement. On vous en avertira, promis. Merci Marie Fauché.
À la semaine prochaine.
Agenda. Il se passe, vous vous en doutez, plein de choses à la Maison de la Radio. Entre autres, lundi 9 novembre à 19h, rendez-vous au studio 106 pour l'enregistrement de l'émission d'Anne Montaron à l'improviste, avec un beau programme de duo. D'abord, Élise Dabrowski à la contrebasse et à la voix, et Claudine Simon au piano préparé. Et puis ensuite, le duo formé par Pascal Comté à l'accordéon et Jean-Marc Foltz à la clarinette. Après avoir assisté peut-être mardi au deuxième concert des Carmina Burana avec le chœur de Radio France et les percussions de l'ONF, puis être venu participer jeudi à 19h à la tribune des critiques de disques, vendredi 13 novembre, venez vivre avec nous la soirée de remise du prix Musique SACEM, du prix France Musique SACEM de la musique de film, avec un beau concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France que dirigera Marzena Diakoun, dans un programme L'âge d'or des compositeurs hollywoodiens, avec des œuvres de Herman, Korngold, Rocha et quelques autres. C'est à 20h.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Jean-Yves, donc nous quittons la côte et nous montons dans le nord.
Ah oui, là c'est définitivement le grand écart.
Oui, c'est le grand écart, parce que la radio s'installe également dans le nord.
Dès 1927, il y a une radio PTT à Lille. Et alors, elle est la seule radio du nord, quasiment, à exister dans ces années-là, et presque jusqu'à la guerre. Et elle est née dans un grenier, d'abord.
Ah oui.
Mais tout de suite, a été une radio extrêmement populaire, avec la figure de Léon Plouvier, qui sera l'animateur avant et après-guerre, puisque c'est une radio qui choisira de se taire lorsque les nazis avanceront définitivement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et il reprendra l'antenne. Et c'est une radio qui est soutenue par ses auditeurs. Il y a des interventions d'auditeurs qui viennent parler dans les studios. Il y a un grand orchestre de 5 musiciens qui est créé de façon à pouvoir animer l'antenne. Et les journaux locaux soutiennent la radio. C'est ça qui est assez étonnant.
Il y a une grande vie musicale dans le Nord, c'est vrai.
Il y a une immense vie musicale et une immense vie, comment dire, sympathique. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Une solidarité musicale. Oui. On ne va pas passer n'importe quoi sur la radio. Il y aura toujours un arrière-plan de distraction, d'éducation et aussi d'entretien du parler du Nord, du ch'ti, t'y m'as fu, t'as écouté à la radio. Évidemment, on ne peut pas parler du Nord sans parler du petit quinquin qui est une sorte d'hymne national extrêmement tendre. Cette chanson, je vous propose de l'écouter tout de suite en guise de générique.
Somme pas du chagrin, si ton dorfoin j'cadement. Ainsi l'autre jour, qu'un pauvre dintelière, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure, une peuge au brère, tâchant de l'endormir par un cochon. Elle y dit, vos marins artistes, m'intara du pain épice, du sucre à gogo, si t'es sachée que ça fait dodo. Oh, ma petite quinquara, ma petite bouchara, ma gros rangin, somme pas du chagrin, si t'en dors point jusqu'à demain, si t'en lèche faire une bonne. j'ai un biotaro, un pantalon de drap, un gilet de laine, comme un petit milon de faro. À quatre ailes, jour de Lucasse, un porrichinelle cocasse, un turlututu pour jouer l'air du capiot pointu. Dors, ma petite quinquara, ma petite poupard, un gros rogin, somme froid du chagrin, si t'en dors le point, je canne.
Quelle jolie voix!
Oui, c'est André Grandjean qui a une jolie carrière dans l'opérette et l'opéra léger. Immédiatement après-guerre, j'aurais voulu trouver un enregistrement des années 20-30, mais bon, le disque n'était pas en très bon état, je préférais celui-ci.
Il a beaucoup tourné.
Il a beaucoup tourné quand même.
Alors c'est un disque Sondor, Bérodi, Paris vers 1950.
Oui, c'est des petites marques qui permettaient d'acheter des disques moins chers que les grands. Déjà, il y avait des luttes entre les majeures compagnies et les petits labels qui essayaient de survivre. Et donc, le Bérodi Sondor est une petite marque.
L'orchestre, c'était un orchestre anonyme, dirigé par Marcel Carivène.
Oui, Marcel Carivène, qui est le grand chef d'orchestre de l'immédiat avant et l'immédiat après-guerre, qui dirige beaucoup de musique légère. Et là, il le fait, ma foi, fort bien.
Alors, on n'entend pas que de la musique légère sur Radio PTT Lille.
Non, on entend de la musique qui est censée donner un petit peu de sens à ce qu'on va écouter. Ça paraît une formule bien creuse, ce que je vous dis, mais on va ne pas mettre immédiatement le grand orchestre. On va choisir une formation, peut-être plus populaire, mais qui accède à une musique qui ouvre la porte de la musique la moins populaire. C'est-à-dire, vous voyez, une espèce d'entre-deux, on fait l'éducation de l'oreille. Et pour éduquer l'oreille, pour éduquer le goût, on choisit des orchestres à la mode. Et l'orchestre d'Edith Laurent, que j'ai choisi pour évoquer cet effort que faisait Radio Nord, puisqu'on l'appelait la Radio Nord PTT aussi, au lieu de Radio Lille PTT, eh bien c'est tout à fait ce genre d'orchestre. C'est-à-dire, c'est une formation de musique légère, chic, qui est capable d'apporter un répertoire léger, chic, mais très très bien. Et après avoir entendu ces musiques légères, on est capable d'apprécier les timbres d'un orchestre, de reconnaître le velouté d'un son, le poli d'une phrase, et peut-être d'accéder à la plus grande musique. Donc Edith Laurent, qui était une femme violoniste, eh bien, est tout à fait dans cet état d'esprit. Je n'ai pas d'enregistrement évidemment de l'orchestre, du grand orchestre de Radio Lille, mais c'est ce qui, à mon avis, s'en approche le plus. Et puis son histoire est formidable. Elle était juive en 1932, elle a arrêté d'enregistrer.
Évidemment. Alors, on écoute un extrait de La Veuve Joyeuse, un pot-pourri.
Allons-y.
Allons-y.
Thank you.
Magnifique pot-pourri de la Veuve Joyeuse de Franz Lehár par l'orchestre d'Edith Laurent. C'est un disque parlophone Berlin 1932 et après, plus d'enregistrements pour Edith Laurent.
Ah non, après c'est terminé, il y a un peu une chape de plomb qui tombe sur l'Allemagne. Oui. Et pour elle, c'est l'heure de fuir, c'est sauf qui peut. Donc la radio Nord-PTT propose ce genre de musique, mais elle propose aussi des musiques récréatives. Parce que on a l'esprit de la fête, vous savez, les grandes ducasses dans le Nord, les grandes fêtes, tout ça peut-être pour contraster avec parfois la dureté du labeur ou la dureté du climat. Il y a énormément de choses et on dansait en famille. Et parmi les airs que l'on aimait bien retrouver, eh bien, il y avait le quadrille des lanciers. Attention Dominique, 1, 2, 3, 4.
Il est un peu tôt ce matin pour danser.
Oui, mais ça remue les gens Bonneau. Allez.
C'était les lanciers, le quadrille des lanciers d'Olivier Métra, l'orchestre des bals champêtres, direction
Diot. Monsieur Diot.
Voilà. Monsieur
Diot. Il a fait toute sa carrière dans les bals champêtres, qui est un héritage des petits orchestres de salon du Second Empire, il faut bien le dire. C'est presque une pièce archéologique.
C'est un disque gramophone, Paris, 1928.
Je tiens à dire que Radio Nord a lancé Lynn Renault encore dans l'après-guerre. C'est vous dire l'importance de cette radio qui est vraiment une radio populaire.
Qui est devenue quoi?
Qui a été récupérée par les antennes nationales, qui maintenant est une radio bleue.
Merci Jean-Yves Pat.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Aujourd'hui, nous découvrons le texte que nous a envoyé Daniel Refaber. Mon souvenir a pour cadre le théâtre des Champs-Élysées au temps des pianos 4 étoiles. C'était en 1977 ou 78. Mon fils âgé de 15 ans prenait des leçons de piano avec Jean Martin, célèbre professeur toujours actif aujourd'hui à près de 90 ans. Ce soir-là, Claudio Arrau jouait entre autres une sonate de Beethoven. Claudio Arrau, la sérénité, la sécurité, la beauté. On s'enfonce confortablement dans son fauteuil, tranquille, les notes coulent. Tout à coup, le pianiste s'arrête et ses mains glissent sur ses genoux. Incroyable. Silence absolu dans la salle. Après quelques secondes de stupéfaction anxieuse, Claudio Arrau retrouve ses doigts et reprend exactement là où il s'est arrêté, ce qui est, selon Jean Martin qui était dans la salle, très difficile. Bien entendu, Claudio Arrau fut remercié par un tonnerre d'applaudissements très mérité. Mais il restera cet inoubliable silence. Thank you. Merci à Daniel Reffaber pour ce souvenir que nous avons illustré avec le troisième mouvement, Scherzo, de la deuxième sonate en la majeure de Ludwig van Beethoven, joué, bien sûr, par Claudio Arrau. Alors vous le savez, cette séquence se nourrit de vos mémoires, alors souvenez-vous et écrivez-nous, et je me ferai un plaisir de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Jeannin. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Dominique.
Alors Sophie, toutes les semaines, vous répondez aux questions de cœur que se posent professionnels et amateurs concernant cette pratique chorale. Et en ce mois de novembre, nous allons aborder le sujet de façon peut-être un peu plus technique, parce que je suis sûre que ce sont des préoccupations qu'ont les amateurs de la voix. Alors techniquement, par exemple, diriger un chœur et diriger un orchestre, est-ce que c'est la même chose, Sophie Jeannin ?
Le socle de base est la même, en effet. Mais après, c'est surtout une question de vocabulaire qui est différente. Avec la voix, on sculpte le son par moment de façon différente, même par rapport à la couleur de voyelle qu'on peut indiquer avec sa main, qu'on peut indiquer avec son langage corporel. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'on n'est pas sur les mêmes échéances de travail. Un chef d'orchestre répète normalement moins longtemps que le chef de chœur. Même si un chœur professionnel comme celui du chœur de Radio France répète sur des séquences assez courtes de préparation, on est quand même dans le temps où on s'est quand même plus vu ensemble. Donc, le chef de chœur a l'occasion au concert de faire des petits rappels par rapport à des choses qui sont normalement déjà construites, déjà mises ensemble. Et cette différence d'échéance de travail est beaucoup porté sur le fait que le chœur non seulement livre la musique, mais il livre surtout un texte. Donc cela demande aussi du travail et du soin dans le détail.
Gaudium magnum.
Extrait d'un très beau concert que la maîtrise de Radio France donnait à la Basilique de Saint-Denis en juin 2014. Sous la conduite de Sophie Janin, nous écoutions l'un des chants d'Hildegard von Bingen. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions concernant le travail de direction de chœur ou la pratique chorale. Sophie Janin vous répondra par la voix des ondes. Enfin, il y a des places à gagner pour l'un des concerts de musique de chambre programmés le week-end prochain ici à la Maison de la Radio. Un week-end dédié à Beethoven et Bartok. Samedi à 18h, vous pourrez retrouver le quatuor Prajak dans un programme Beethoven, du Sapin et Bartok. Pour venir y assister, c'est facile. Inscrivez-vous sur la page de Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. C'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, Philippe Petit, Fred Potry et Alex Billard. À très vite!